France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir, consacrée ce soir à la pensée, aux penseurs de l'écologie. Gel des investissements dans le budget 2026, suppression des zones à faibles émissions, récente adoption de la loi Duplomb en France. Malgré l'urgence climatique, plusieurs mesures témoignent d'un recul global de l'écologie politique. Un recul que de nombreuses publications récentes analysent comme un symptôme, celui du décalage, voire de l'inefficience des idées et des concepts de l'écologie avec la question sociale, la fameuse contradiction apparente entre fin de mois et fin du monde. Alors, quels sont les concepts qui accompagnent la transition écologique? Quel rôle jouent-ils dans la fabrication des imaginaires? Quelle place laisser par exemple aux idées de nature, d'anthropocène ou de classe sociale dans l'écologie politique? Et sur quel héritage et quels outils la fonder? Voici les questions que nous allons poser à nos trois invités de ce soir. Avec nous pour en parler, Patrice Manilier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre et co-créateur animateur de la revue Les Temps qui restent. Et parmi vos nombreuses publications, je me permets de citer deux livres. Le philosophe, la Terre et le virus, Bruno Latour, expliqué par l'actualité aux éditions Les Liens qui libèrent, c'était en 2021. Et La Terre ou le monde, divergence cosmopolitique, coécrit en dialogue avec le philosophe Étienne Balibar, paru aux éditions Mialet Barreau, c'était très récemment, en avril 2025. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Pierre Charbonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également philosophe, chargé de recherche au CNRS, enseignant à Sciences Po, cofondateur du collectif Construire l'écologie, lancé l'année dernière, on y viendra. Et de vos livres, je rappelle deux d'entre eux, peut-être trois d'entre eux, Abondance et liberté, c'était à la découverte en 2019, Culture écologique aux presses de Sciences Po en 2022 et Vers l'écologie de guerre, une histoire environnementale de la paix aux éditions de découverte en 2024. Et enfin, à distance, Fabrice Flippot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes également philosophe. C'est un trio ce soir dans Question du soir. Vous enseignez à l'Institut Mines-Télécom Business School. Vous êtes également chercheur au laboratoire du changement social et politique de l'Université Paris-Cité. Et vous travaillez depuis de nombreuses années sur les liens entre nature et politique. Vous coordonnez notamment la revue Bifurcation. Je cite également deux publications. Changer les modes de vie. Une dialectique matérialiste par-delà le plan et le marché, chez les éditions Croquant en 2024, et un livre à paraître en septembre, Les écologistes sans la nature, en finir avec le faux ami Bruno Latour, ce sera aux éditions textuelles. Voilà, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Alors j'ai parlé de publications récentes, critiques, on pourrait en citer plusieurs, mais parmi les cibles récurrentes de ces critiques, il y a une figure majeure de la pensée contemporaine qui fait office d'épouvantail, c'est le philosophe Bruno Latour, mort en octobre 2022. Pourtant, c'est lui, avec d'autres et peut-être plus que d'autres, qui a participé à rendre populaire, à rendre accessible certains concepts aujourd'hui utilisés dans l'écologie politique. Je précise évidemment que Bruno Latour fait également l'objet de nombreuses publications collectives qui poursuivent le sillon qu'il a tracé. Mais ces débats ont lieu depuis de nombreuses années. Fabrice Flippot, je rappelle que vous allez publier en septembre un livre qui veut en finir avec le faux ami Bruno Latour. Alors ma première question est pour vous. Pourquoi, selon vous, était-il essentiel, nécessaire aujourd'hui de solder l'héritage intellectuel de Bruno Latour? Est-ce que la pensée de Bruno Latour, selon vous, empêche de faire récit commun pour l'écologie politique?
Alors, est-ce que ça empêche de faire récit commun? Oui, en partie. C'est-à-dire que moi, la principale critique que je fais, c'est le caractère confus des concepts qui sont utilisés. Et le fait que certains concepts clés, comme le concept de nature, qui est essentiel dans la pensée écologiste depuis le début, soit, disons, rendu opaque, quoi. Et donc, du coup, quand on veut essayer de se comprendre sur les enjeux de l'écologie politique aujourd'hui, que vous avez très bien rappelé, le changement climatique, etc., fin du mois, fin du monde, mon constat, c'est, mes écrits le prouvent, c'est qu'on peut très bien se passer de la pensée de Bruno Latour, et je suis pas du tout convaincu par le fait qu'il ait rendu plus compréhensibles les enjeux auprès d'un public plus large.
Alors, s'en passer, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'il fallait en solder l'héritage? On pourrait s'en passer sans l'attaquer, sans la déconstruire, sans la critiquer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire ce travail-là, Fabrice Flippot? Et puis, je ferai réagir les deux invités qui sont en plateau.
Oui, je disais que je donne juste un exemple, mais si vous regardez Poétique de la nature, il y a un lexique de plusieurs dizaines de mots. Si vous regardez les modes d'existence, pareil, un lexique de plusieurs dizaines
Alors, je crois
de
qu'on...
mots.
Je crois que nous sommes en train de vous perdre, Fabrice Philippot, mais vous revenez sur cette idée que c'est peut-être trop jargonneux, incompréhensible, difficile à faire atterrir les mots et les concepts de Bruno Latour dans le débat public. Pierre Charbonnier, comment est-ce que vous maniez l'héritage de Bruno Latour dans votre travail? Est-ce que, selon vous, l'actualité fait résonner son œuvre, la rend toujours pertinente pour penser l'écologie?
Alors déjà, la première chose à dire, c'est que lui-même a essayé de construire sa réflexion en réaction à l'actualité. Si vous prenez « Nous n'avons jamais été modernes », c'est un livre qui s'ouvre par une réflexion sur la vache folle, la chute du mur de Berlin. C'est un livre qui date de 1989 ou 10, je sais plus, enfin juste après. Donc c'est Latour, c'est quelqu'un qui a déployé énormément d'efforts pour en fait tirer les conclusions, tirer les conséquences du fait que l'autorité des sciences qui était monumentale, quasiment inquestionnée dans le monde, disons, occidental, capitaliste de l'après-guerre, est devenue assez vite l'objet de très nombreuses critiques, de remises en question. Le grand boomerang de la modernisation technoscientifique est revenu au visage des sociétés. C'est des centrales nucléaires qui explosent, des virus, des scandales, des controverses, et bien sûr la crise environnementale. Et Latour est quelqu'un qui dit « Ok, nous pensions vivre dans un monde stabilisé, par un arrangement qui met d'un côté la politique, la représentation, de l'autre la science, l'ingénierie. En fait, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Il a essayé de remettre à niveau, on peut dire, la sociologie et la philosophie à l'épreuve de ces événements-là. Et de ce point de vue-là, il fait partie d'un contexte intellectuel beaucoup plus large. Toute la sociologie du risque, la sociologie de l'expertise, l'anthropologie de la nature. Enfin, il fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste que lui, hein. On ne peut pas comme ça isoler Latour comme une espèce d'aérolithe au milieu de rien. Et alors, c'est vrai qu'il en a fait une œuvre qui n'est pas évidente, qui peut provoquer un peu de confusion. Il y a beaucoup d'innovations terminologiques. C'est pas facile à lire. Mais peut-être qu'aussi, d'ailleurs, ce qui est intéressant à faire aujourd'hui, c'est essayer de faire retomber un peu la subversion, la folie autour de Latour, pour le situer un peu calmement, à côté de Bourdieu, à côté de Foucault, à côté d'autres grandes références de la littérature sociologique et philosophique française, pour comprendre ce qu'il a dit d'original sur les sciences, la société et l'écologie.
Vous disiez, il y a eu un colloque d'hommage à Bruno Latour en décembre dernier qui s'est tenu à Sciences Po. Vous disiez, il faut restabiliser ce que Latour a consacré tant de temps à déstabiliser. C'est ça que vous voulez dire lorsque vous dites qu'il faut essayer de le retraduire, de le mettre à côté d'autres, de rendre plus intelligible?
Ah, ça, c'est une autre idée. C'est vrai qu'il y avait eu ce moment un petit peu de commémoration. Ce que j'avais essayé de dire ce jour-là, et qui était très très mal passé dans l'arène latourienne, c'est que le monde dans lequel a vécu et travaillé Latour est un monde assez différent du nôtre, que lui a fait énormément d'efforts en fait pour insister sur l'incertitude des rapports entre l'expertise scientifique et, on peut dire, la décision publique, la décision politique. C'était extrêmement fructueux. Aujourd'hui, on est déjà à plus 1 degré, vous avez dit, hein, il y a un énorme backlash contre les politiques environnementales et climatiques. Je pense qu'on a besoin de tirer profit de très nombreuses œuvres, parmi lesquelles celle de Latour, et sortir un peu des ruines, sortir de l'expérimentation pour restabiliser des choses en tenant compte des épreuves que Latour voyait. Mais c'est une idée un peu différente.
Patrice Maniglier, quel est l'héritage de Latour aujourd'hui? Et je vous pose la même question que j'ai posée aux deux autres invités. Est-ce que l'actualité fait résonner son œuvre? Est-ce que vous comprenez cette activité, ébullition éditoriale autour de Bruno Latour?
Oui, bon, je pense que Latour, c'est un événement intellectuel très important, enfin, qui a une dimension qui va très au-delà même de l'écologie politique, qui est elle-même un enjeu très important de nos sociétés. Et donc, c'est ça aussi une des grandes difficultés de la réception de son œuvre. C'est que c'est un philosophe, c'est un sociologue, c'est un anthropologue, quelqu'un qui touche à peu près à tous les domaines des humanités, des arts. C'est très rare, des pensées comme ça. Bon, il faut rappeler que l'influence de Latour sur le champ intellectuel international est à peu près sans équivalent dans la pensée française. Bon, le seul qui ressemble à ça, c'est en fait Foucault. Hein, y a pas, donc c'est dire. Donc il y a quelque chose. Et qu'en France, ça n'a pas été bien perçu. Ce qui explique peut-être les tentatives un peu de règlement de compte qui ont lieu depuis quelque temps. Donc bon, ça c'est une première chose à dire. Donc c'est que c'est une œuvre très importante, hein, qui a beaucoup de dimensions. Voilà. Qui donc, du coup, évidemment, crée un langage. Et puis fait ce que doivent faire des intellectuels. C'est-à-dire poser des questions, en effet, curieuse, déstabilisante, bizarre. Bon, moi, je ne sais pas si l'humanité va s'en tirer. Par contre, je trouverais intéressant que, dans le temps qui lui reste, eh bien, elle fasse des choses intéressantes. Et ce que fait la tour, c'est qu'il rend intéressant les problèmes. C'est la dramatisation intellectuelle permet de prendre la mesure d'un événement. Donc, s'il est vrai qu'on est face à un événement considérable. Par exemple, on parle de sixième extinction. Sixième extinction, ça veut dire qu'il y en a eu 4 ou 5 dans les 4,5 milliards d'années.
Extinction de masse des espèces.
Extinction de masse des espèces. Donc c'est un événement tout à fait exceptionnel. Donc la tâche d'un philosophe, et c'est aussi ce que pensait quelqu'un comme Foucault ou quelqu'un comme Nietzsche, c'est de dramatiser les événements. C'est-à-dire, en gros, de dire « Waouh, regardez, il se passe quelque chose d'impressionnant ». Et une manière de le faire, c'en est une, il y en a d'autres, mais une manière de le faire, c'est de dire, regardez, ça touche à la pensabilité des choses que nous pensions évidentes. Par exemple, la distinction sujet-objet, personne-chose.
Humain-non-humain.
Humain-non-humain, c'est pas tout à fait les mêmes d'ailleurs. C'est déstabilisé, bon, ça peut ne pas être tout à fait pareil, c'est déstabilisé et marquer cette déstabilisation, c'est donner une caractérisation de la différence entre le passé et le présent. Et moi, je pense quand même que les intellectuels doivent se dire que si ils et elles demandent à des milliardaires, à des braves gens, à des pauvres, de changer leur vie, ils sont quand même, au minimum, ils devraient montrer qu'ils sont capables de changer un peu leur catégorie de pensée. C'est le minimum qu'on puisse demander quand on demande tant de changements aux gens. Et par ailleurs, j'insiste, ça crée du désir. Ce qu'il manque beaucoup dans les domaines de l'écologie, c'est du désir. Tout est présenté sur le mode du devoir. Or là, il y a quelque chose de passionnant, et c'est un peu la thèse que je soutiens, dans le fait de devenir des agents terrestres. C'était, à mon avis, le principal héritage, en tout cas en matière d'écologie politique de la pensée latourienne, c'est-à-dire qu'on découvre une dimension qui s'ajoute à notre capacité d'action, à savoir que non seulement on agit sur nos voisins, sur nos proches, dans des relations sociales humaines, ça, mais on est aussi en train de fabriquer une Terre dans 100 000 ans, 200 000 ans, 1 million d'années, 400 millions d'années.
Voilà, c'était l'objet de votre dialogue contradictoire que vous avez mené avec Étienne Balibar, à savoir si nous sommes avant tout terriens, si cette condition terrienne prime sur notre condition d'humain sujet politique. Est-ce que être des agents terrestres est pour vous un héritage désirable? Est-ce que cela peut permettre de susciter du désir ensuite pour parler d'écologie, Fabrice Flippot?
Oui, j'ai été coupé, désolé.
Donc, je vous en prie, je vous en prie.
Si vous voulez bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce petit bouquin, c'est presque un bouquin de commande de la part de gens qui passaient beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que Bruno Latour voulait dire. Donc moi, à la limite, j'aurais pu ne pas l'écrire. C'est en quelque sorte pour rendre service. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, oui, agent terrestre...
Sur ce que dit Patrice Manilier, voilà, qu'on rentre un petit peu dans le fond des idées et des concepts qui font vivre l'écologie aujourd'hui.
En 1962, l'écologie politique est constituée quasiment à 100% de cette idée-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans la biosphère, cette biosphère, elle est partagée par tous, quel est l'ordre politique qui peut permettre d'obtenir la liberté et la paix. Donc ça fait 50 ans à peu près que la pensée écologiste réfléchit sur ce sujet, et il y a beaucoup de choses déjà qui ont été mises en avant, et donc moi je suis plutôt de ceux qui disent qu'il faut faire connaître ce qui existe déjà. Le faire connaître éventuellement on peut le critiquer aussi, bien entendu, mais pour critiquer il faut déjà le connaître, et de telle manière à en quelque sorte capitaliser sur de la même manière que le socialisme a capitalisé sur un corpus intellectuel, l'écologie politique devrait un peu faire la même chose, et c'est ce qui manque dans le courant, et c'est une critique qui est récurrente, c'est-à-dire ce côté un petit peu amnésique des écologistes qui fait que ils vont avoir tendance à réinventer des choses qui en fait seraient disponibles s'ils se donnaient les moyens de d'archiver un peu quoi. Alors il y a des historiens qui
pour bien comprendre et pour être clair, vous dites, par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, Fabrice Philippot, vous dites, il n'est pas nécessaire. Vous m'entendez? Il n'est pas nécessaire de faire usage de nouveaux concepts pour penser les nouveaux défis. Le nouveau défi du changement climatique. J'essaye pour essayer de...
Sauf que penser des nouveaux concepts, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont fait. Et donc c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut adosser sa réflexion à une expérience qui existe déjà. Et notamment, c'est une expérience qui est adossée elle-même à une expérience politique et militante, donc qui est ancrée dans la société. C'est ce que je veux dire. Donc s'il s'agit de changer la société, ben il faut se servir des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, avoir une réflexion qui est ancrée en quelque sorte hein, dans cette expérience de long terme, de plusieurs décennies, de la même manière que dans le socialisme, il y a des auteurs classiques qui sont aussi souvent des décideurs, qui ont souvent été des décideurs politiques et qui du coup apprennent la concrétude des choses.
Vous comprenez cette critique, Pierre Charbonnier, de celui de imposer des questions métaphysiques sur être un agent terrestre plutôt que de s'intéresser à la question sociale, ce manque d'ancrage de la pensée. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que ce que disait Fabrice Philippot, là, c'est plus ça. Il situe le débat au niveau des écoles, des traditions, des groupes politiques. Et s'il y a bien une chose que Bruno Latour n'a jamais été, c'est le penseur d'une école. Donc, effectivement, d'ailleurs, cette critique, je suis habitué parce qu'on me l'a déjà faite à moi aussi. Pourquoi voulez-vous renouveler les approches, critiquer les concepts, alors qu'on a déjà Ivan Illich, Jacques Ellul, André Gorz, etc., et qu'on peut très bien travailler avec ça et que ça suffit. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de travailler avec tous ces auteurs-là. Je pense que d'ailleurs, d'une certaine manière, Bruno Latour en fait partie, de la mer, il fait partie des sciences sociales françaises, comme Bourdieu, comme Foucault, encore une fois, pour ceux qu'on a déjà cités. Par contre, justement, et c'est ce que disait Patrice Manigler dans des termes un peu différents, ce que fait Bruno Latour, c'est faire éclater les problèmes. C'est ce que Patrice disait quand il disait, il les rend intéressants. Il dit, ok, nature.
Vous avez la dramatise, disait Patrice Manigler.
Vous parlez de nature, mais attendez, justement, on est en train de se prendre le boomerang du développement dans la tête. Une vache folle, c'est encore une vache. Alors, est-ce qu'un scientifique qui a mis au point les aliments qui les rendent malades, c'est de l'expertise scientifique, ça les rend malades? Est-ce que, par exemple, les agronomes qui essayent de mettre en place des dispositifs d'agriculture soutenable, extrêmement avancés, ils font la même chose que les économistes qui essayent en fait de développer une théorie de la valeur qui n'a rien à voir avec la théorie des ressources? Les sciences sont des activités d'une incroyable complexité. Bruno Latour a été, et encore une fois, parmi d'autres, il ne faut pas l'isoler, quelqu'un
qui a questionné la place de la science,
qui a attiré notre attention,
qui a questionné la certitude scientifique.
Alors, en fait, il n'a pas questionné la certitude scientifique au sens où il a voulu la mettre en doute. Ce qu'il a voulu faire.
Non, la manière dont elle était produite et la place qu'elle occupait.
Comment ces énoncés bizarres qui sont des énoncés scientifiques, qui sont différents d'un énoncé subjectif, j'ai faim, j'ai soif, etc. Le dogme philosophique consistait à dire ces énoncés sont absolument spéciaux. Ils ont une nature différente des autres. Soit pour dire que c'était formidable, la tradition cartésienne rationaliste, soit pour dire que c'était scandaleux, la tradition romantique qui va jusqu'à Heidegger. Latour dit, en fait, c'est pas le problème. La vraie question, c'est qui sont les gens qui fabriquent ça, dans quelles institutions, par quels dispositifs expérimentaux, et comment on fait pour que les énoncés tiennent. C'est le truc qu'il dit tout le temps dans les années 80, 90, comment ça tient. Et lui, il dit, ce qui est vrai, c'est ce qui tient. C'est pas l'inverse. C'est pas parce que ça tient, c'est vrai, c'est l'inverse.
De ce point de vue-là, est-ce qu'on pourrait penser, selon vous, Patrice Delier, qu'avec le Covid-19, qui a suscité énormément de discours parascientifiques, le développement de ce qu'on appelle communément aujourd'hui un régime de post-vérité, où on se questionne justement sur la possibilité même pour les sciences d'établir des vérités dans le contexte actuel, est-ce que là, c'est une piste de prolongement, de renouvellement de la pensée latourienne?
Oui, là, je pense qu'il a touché quelque chose d'assez utile. Bon, un livre que j'ai beaucoup apprécié, qui est sorti il y a quelques années, de Stéphane Foucard, Sylvain Laurence et Aurel, qui s'appelait « Les gardiens de la raison », que je recommande à tout le monde, parce que je le trouve vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il identifie un changement dans la manière de produire de l'ignorance. C'est-à-dire qu'avant, les grandes industries produisaient de l'ignorance, comme on sait peut-être, en finançant des recherches tout à fait scientifiques, mais sur des points de détail. Par exemple, on sait qu'il y a une incidence du tabagisme sur le cancer du poumon, mais on va quand même voir s'il n'y aurait pas aussi une cause sur les microparticules et ce genre de choses. Bon, et puis très récemment, et c'est Trump est un illustre démonstration de ça. Il n'est plus question simplement de détourner l'institution scientifique, il est question de la détruire. Donc ils opposent ce qu'ils appellent la junk science, qui est en gros produite par les grands instituts de recherche et les universités, à ce qu'ils appellent la sound science, la science raisonnable, qui est produite en fait par les industries. Donc là, il y a un changement, il y a une vraie rupture. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutions scientifiques sont attaquées à la racine. Or, moi, je pense que ce qu'on peut tirer de l'enseignement latourien, c'est que, au fond, est scientifique ce qui est produit par des institutions scientifiques. Soyons très simples, il n'y a pas de méta-discours sur la science. C'est d'ailleurs un vieil énoncé philosophique de Spinoza qui dit que le vrai est signe de lui-même et du faux. Donc on ne peut pas, ça se comprend d'ailleurs, si je me permets de faire une seconde de philosophie, il faudrait avoir une certaine idée de la vérité vraie pour pouvoir ensuite dire que telle idée de la vérité est vraie ou fausse. Bon, donc en fait, il n'y a pas d'idée de la vérité qui ne soit elle-même vraie. Donc il faut déjà avoir la vérité pour pouvoir avoir une idée de la vérité, tout simplement. Et donc c'est vrai que les institutions scientifiques, me semble-t-il, sont les meilleurs critères de ce que c'est que les sciences. Donc ce qu'il faut défendre, c'est ce que dit Latour, c'est il faut défendre les pratiques scientifiques, et pour cela il faut en comprendre la spécificité, l'originalité. Et ça, c'est proprement une démarche anthropologique, au sens où l'anthropologie, c'est ce discours qui fabrique un savoir à partir de la différence et de la variété des manières de faire du savoir. Dire là, il y a un savoir original. Essayons de le décrire. C'est pas juste que les Grecs ont découvert la vraie science ou la raison, c'est que ils ont inventé des pratiques tout à fait originales qui ont des effets originaux. Donc si on a de la biologie, ça veut dire qu'on entre dans un autre monde. C'est pas simplement qu'on a le vrai sur le vivant, c'est qu'on va produire une autre forme de la vie. Toutes ces remarques sont particulièrement efficace aujourd'hui dans l'analyse, effectivement, des grands problèmes de la post-vérité, de l'attaque incroyable, en fait, des milliardaires, finalement, sur la production de la science.
Fabrice Lupeau, vous souhaitez réagir?
Oui, non, c'est pas une querelle d'école, c'est même le contraire. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt en train de dire que dans ce qui existe en termes de ressources conceptuelles et analytiques, regardez ce qui est le plus éclairant, parce que pour moi, c'est ça, le travail du philosophe, c'est être éclairant et permettre au public de décider ensuite de manière éclairée. Et donc, je disais, ce bouquin est venu d'une commande de gens qui trouvaient que...
Quel dommage, on est encore en train de vous perdre, Fabrice Flippo, mais on va continuer la conversation. Il y a un autre concept proposé par Latour, plutôt à la fin de sa vie, qui est celui de nouvelle classe écologique, dans lequel il postule que si l'écologie politique veut exister, elle ne doit pas se laisser définir par d'autres types d'idéologies, mais elle doit... être par elle-même, définir elle-même les fronts nus et les termes du débat. Est-ce que ça, c'est pas un Latour qui sort des concepts compliqués et qui entre dans l'écologie politique? Vous doutez tous les deux, je vais vous donner la parole, Pierre Charbonnier, et puis Fabrice Flippo, si vous revenez, je souhaiterais vous faire réagir sur cette idée de classe écologique.
Effectivement, en quelques mots, donc Bruno Latour fait partie d'une galaxie d'auteurs qui considèrent que les transformations écologiques sont d'une amplitude telle qu'elles nécessitent de réviser le lexique conceptuel dont on dispose pour parler de la société et surtout pour parler des genres de rapports que la société entretient avec le monde extérieur. Donc c'est une grande entreprise de subversion, c'est pour ça qu'il était aussi anti-durkheimien, aussi anti-marxiste en quelque sorte. Et donc vers la fin de sa vie, quand il voyait les conflits sociaux autour de la transition commencer à prendre forme, notamment autour du moment des Gilets jaunes, il a voulu concrétiser cette réflexion en se demandant quelle était cette nouvelle sociologie qui émergeait à partir du moment où les gens ne se battaient plus en fait seulement en fonction d'intérêts socio-économiques classiques, niveau de revenus, niveau de prestige social, etc., donc en termes de classe, mais qui se battaient les uns contre les autres en fonction du rapport qu'ils entretiennent avec cette chose, en quelque sorte, nouvelle, qu'est la Terre. C'est-à-dire, c'est pas... Quand il disait la Terre, où il disait parfois Gaïa, où il y a une époque où tout le monde disait l'Anthropocène, puis aujourd'hui le mot a disparu, ce qu'il voulait dire, c'est pas le globe terrestre, c'est-à-dire celui de la mondialisation, des échanges, voilà, des grands réseaux commerciaux. C'est pas non plus justement la nature, c'est-à-dire le tissu des grandes régularités physiques, biologiques. C'est l'espace de coexistence qui est en même temps biophysique et géopolitique. Et on peut pas faire autrement que coexister sur un espace qui est commun à tous, en même temps qui est disputé, et qui nous demande en même temps de se rapporter à lui en fonction du fait qu'il est productif, il est vulnérable, il est fragile, il change dans le temps, etc. Donc quand il voit des gilets jaunes, il se dit, que font ces gens qui protestent contre une mesure qui augmente le prix des combustibles, mais qui le font en même temps, enfin sans dire d'ailleurs que les questions climatiques sont non pertinentes, hein, pas du tout, mais voilà, vous voyez, ça redessine le rapport qu'il y a entre des intérêts économiques, des façons de vivre, des lieux de vie. Et donc, il avait eu tendance à ce moment-là à penser que le vieux concept marxiste de classe pouvait plus tellement être utilisé. Donc, il dit géoclasse, qui est d'ailleurs un terme, c'est intéressant, qui est réutilisé aujourd'hui par Piketty, dans une signification un peu différente, mais quand même. Et donc, il a
Thomas
été...
Thomas Piketty, économiste. Hein, voilà,
oui, pas le premier, pardon. Oui. Pas le premier, mais un de ceux qui ont commencé à prendre au sérieux les conflits de transition comme quelque chose qui changeait profondément la sociologie.
Alors, on parle là de se défaire du concept marxiste de classe sociale. Il y a un autre concept marxiste qui est celui du capitalisme. Est-ce qu'on peut se défaire de ces concepts-là qui décrivent et qui peut-être structurent la société dans laquelle nous habitons, Patrice Mignallier, pour penser l'écologie dont on a parlé d'anthropocène, mais d'autres ont parlé de capitalocène ou de voilà. C'est-à-dire que il y a énormément de penseurs de l'écologie qui pensent que c'est le capitalisme qui est la cause, l'origine ou le vecteur, l'arme du changement climatique.
Oui, ça c'est un vrai débat qui est intéressant, mais c'est sûr que c'est le capitalisme. Le problème c'est qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Est-ce que le capitalisme c'est simplement un rapport, disons, d'exploitation d'un être humain par un autre être humain sur la base de ce qu'on appelle le travail, ou est-ce qu'il faut y intégrer aussi d'autres dimensions ? Et est-ce que c'est le capitalisme...
Notamment la question fossile que vous explorez dans votre livre.
Voilà, par exemple, c'est le capitalisme, c'est une catégorie qui est un petit peu trop vaste pour pouvoir saisir précisément le différentiel qui nous intéresse de l'événement dont on parle. Et est-ce que, par ailleurs, le capitalisme sans les sciences n'impliquerait pas le type d'industrie et le type de système socio-technique qui est le nôtre, donc ça ne marcherait pas, sans non plus l'héritage, disons, des procédures démocratiques, entre guillemets, ou des procédures de la représentation politique, qui ont elles-mêmes une autre histoire. Il y a plein d'histoires différentes. Donc, capitaliste, d'accord, à condition que ce ne soit pas réductionniste.
Non, mais la question, c'est est-ce qu'on peut penser une classe écologique qui ne pense pas le capitalisme aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit à la lutte contre le changement, lorsqu'on essaie de faire cette transition du monde des idées à l'écopolitique.
Il faut penser le capitalisme, mais il faut penser bien le capitalisme, justement. Il faut savoir que le capitalisme, comme ça, dit abstraitement, ça veut rien dire, en fait. C'est un concept qui est beaucoup trop vague. Il faut le spécifier, mais tous les penseurs du capitalisme le savent, et normalement le font. Mais bon, des fois, on se donne quelques facilités avec ce genre de choses. Mais simplement, vous voyez bien que le débat, si on dit, c'est vraiment, on dirait, c'est « it's the economy stupid », comme on disait à l'époque Clinton. C'est un peu ça que nous disent la plupart des gens qui pensent être extrêmement radicaux et avoir découvert magiquement qu'en fait, c'était l'économie qui déterminait tout. Bon, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire que c'est à la fois l'économie, les sciences, la politique, enfin, ce qu'il appelait la modernité. Moi, je trouve ça plus intéressant, le mot modernité, parce que c'est un mot qui est plus énigmatique. Le problème, c'est que capitaliste, les gens croient savoir ce que c'est, alors qu'en fait, à peu près personne ne sait ce que c'est à proprement parler. Alors que modernité, au moins, c'est un mot disputable, discuté, compliqué. On ne sait pas de quoi. Et puis surtout, c'est beau parce que c'est narratif. Les modernes. Alors qu'en fait, derrière capitalisme, c'est très narratif. Le capitalisme, on a l'impression que c'est un agent qui agit tout seul. Donc les gens qui critiquent d'ailleurs Latour en disant c'est pas un penseur qui pense le capitalisme, lui donnent raison, puisque Latour, justement, est quelqu'un qui dit en fait, il y a des agents partout. Par exemple, le capitalisme, ça peut aussi être un agent, en fait, parce que c'est le discours qui décide qui est un agent, d'une certaine manière.
Alors, dernière tentative, Fabrice Libaud, je crois que vous êtes revenu. Est-ce qu'il faut parler de moderne plus que de capitalisme pour penser l'écologie politique ?
Alors, bah oui, je suis revenu par WhatsApp. Bon, j'espère que ça a marché.
Bienvenue.
Merci. Et donc, en fait, dans la pensée écolo, depuis longtemps, il y a cette idée que il y a capitalisme et socialisme dans la modernité. Il n'y a pas que capitalisme et que les deux ont eu tendance à développer les forces productives, comme on dit. Et que donc, la question, c'est la question du productivisme. Et donc, il faut voir ce que l'écologie politique appelle productivisme. Et je pense un des meilleurs penseurs à l'heure actuelle, c'est un marxiste, Jacques Bidet. Et bon, c'est voilà, il s'intéresse à cette question. Il dit qu'il y a deux finalement sources de l'exploitation, en quelque sorte. Je résume vraiment à grands traits.
Le profit, certes, et ça c'est le capitalisme, mais il y a aussi l'organisation, le pouvoir des compétents de ceux qui ont autorité sur un certain sujet et qui, on va dire, monopolisent le sujet et excluent les autres. Et il donne, pour lui, c'est une des sources vraiment du socialisme, de l'échec socialiste. Et il se trouve que dans l'écologie politique, enfin, c'est vraiment les mêmes arguments, c'est-à-dire une critique très forte de l'organisation, qu'on pense à Lewis Mumford ou Ivan Illich ou plein d'autres. Et donc c'est assez cohérent. Ensuite, sur le deuxième point, modernité ou pas modernité, là aussi, enfin dans la pensée écolo, depuis le début, la modernité est critiquée, notamment parce que la modernité, c'est le développement. Et le développement, c'est l'idée que l'homme va suivre une voie unique. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il se négocie dans les grands rounds sur le climat ou sur le commerce. Hein. Il y a les pays développés, les pays sous-développés, les pays peu développés. Enfin voilà, c'est une idéologie qui est structurante de notre temps. Et derrière le développement, il y a toute une cosmologie, en réalité, et ce que l'écologisme a réalisé depuis longtemps. Toute une cosmologie, c'est-à-dire un certain type de science, un certain type de technique, une certaine manière de voir la démocratie. Et donc, faut rentrer dans le détail, parce que sinon, on reste un peu à la superficie.
La superficie des choses.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
La question écologique, c'est de s'apercevoir qu'on est en situation de dépendance avec d'autres êtres qui sont les vivants innombrables dont nous profitons de cette existence. Alors évidemment, c'est en contradiction avec les questions d'émancipation et de dire « moi, je me fais tout ce que je veux », etc. Vous ne pouvez pas espérer mobiliser sans faire le travail idéologique important que les partis illibéraux et néofascistes font en ce moment, de trouver exactement les termes qui suscitent des affects d'adhésion. Je m'adresse à nous tous qui regardons ce débat entre écologistes et libéraux et qui ne nous tournons pas vers les écologistes pour soutenir les mesures qu'il va falloir prendre. Et ces mesures, elles vont forcément être difficiles. Si vous ratez la compréhension des affects qui mobilisent les gens quand on leur dit il faut faire toutes ces transformations énormes dans nos modes de vie, on n'arrivera à rien.
Voilà, Bruno Latour, la voix, puisqu'on parlait de lui depuis le début de l'émission, en disant que les écologistes ne peuvent pas espérer mobiliser sans faire le travail idéologique. C'était sur France Inter en janvier 2022. Nous sommes, nous, sur France Culture en juillet 2025 et ensemble jusqu'à 19h pour une émission, vous l'aurez compris, dédiée à Bruno Latour et au pont entre le monde des idées et l'écologie politique, en compagnie de trois philosophes, trois penseurs de l'écologie, Patrice Manillier, Pierre Charbonnier et à distance Fabrice Flippot. Alors vous vous engagez tous les trois à travers vos livres, vos prises de parole, vos prises de position, mais aussi à travers des revues, des collectifs. Comment on suscite l'affect d'adhésion, pour reprendre l'expression qu'on vient d'entendre, au-delà des récits, des narratifs, au-delà de la dramatisation, Patrice Manillier, comment est-ce que on met en pratique la pensée ?
Alors, bon, moi j'ai répondu à ça par effectivement la reprise de la revue de Sartre et Beauvoir et Merleau-Ponty, qui étaient les temps modernes, qui étaient fondés justement sur la notion d'engagement.
Fondés en 45, hein, juste après la guerre.
Juste après la guerre, précisément dans un moment où l'effraction de quelque chose de totalement déconnecté, enfin inaccessible à notre activité humaine, individuelle la plus immédiate, c'est-à-dire le monde, on pourrait dire, faisait rentrer dans les vies individuelles. C'est ça la guerre, c'est qu'on vient vous chercher avec des bottes dans votre appartement. Bon, et donc on peut plus retiré dans sa tour d'ivoire. Et la thématique de l'engagement, c'est vraiment cette question d'une sorte de friction des échelles. Et bon, Sartre a beaucoup thématisé cette notion-là. Et bon, il se trouve que l'éditeur, Antoine Gallimard, a décidé de fermer la revue Les Temps Modernes, dont je faisais partie, et je me suis dit c'est vraiment le mauvais moment, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation assez similaire, c'est-à-dire une situation dans laquelle, à nouveau, le monde fait effraction dans nos vies individuelles et on a un problème de réglage entre ce qu'on fait soi-même de sa propre vie et le sens que ça a dans des échelles beaucoup plus grandes, notamment même cette fois-ci des échelles qui peuvent se compter en centaines de milliers d'années. Et donc la revue Les Temps qui restent a pour objectif d'essayer de donner des outils par tous les moyens possibles, à vrai dire, la poésie, les chansons, des textes théoriques, etc., de donner des outils aux gens pour qu'ils créent ces capteurs. Parce que je pense qu'effectivement, nous n'avons pas ces capteurs. Ça peut être des choses très simples. Par exemple, quand vous allez au supermarché, vous aimeriez bien avoir quel est le profil de la terre qui s'indique à travers ce produit plutôt qu'à travers tel autre produit. Si vous êtes un petit peu informé, vous savez que des moustiques tiquent quand ils vous piquent dans le nord de la France, ça veut dire que la terre est en train de changer. Donc il y a des signes parfaite de ce changement terrestre et nous ne sommes pas formés en vérité pour le faire. Et ça, c'est une chose que j'admirais beaucoup chez Latour, c'était de dire en fait, on est dans des sociétés qui sont anesthésiées et apathiques. Et au fond, si j'étais sociologue, moi, je m'occuperais de la question de savoir qu'est-ce qui explique l'inaction de ces sociétés alors que les plus grandes autorités du savoir, qu'elles se reconnaissent elles-mêmes, leur disent il faut faire quelque chose et elles ne le font pas. Ça, c'est la vraie question sociale. Bon, ben là, c'est une des explications, c'est de dire on n'a pas les capteurs. Et donc, il s'agit de créer ces capteurs, ça veut dire des formes sensibles. C'est une question esthétique et le discours philosophique fait partie de cet effort esthétique pour sensibiliser à cette nouvelle dimension de nos propres actions, qui est cette dimension terrestre ou planétaire, comme on voudra l'appeler.
Pierre Charbonnier, nous n'avons pas les capteurs pour agir. C'est ça qui explique l'inaction malgré le consensus scientifique ?
Oui, c'est vrai. Alors, et c'est vrai aussi que la période là, des années 20, des années 2020, extrêmement troublée, avec toute la période antérieure de stabilité géopolitique qui est en train totalement de s'effondrer, je pense doit aller de pair avec une situation de l'intellectuel dans la vie publique assez différente de ce qu'on a connu dans le passé, qui est un petit peu similaire d'ailleurs à ce qui s'est passé dans la période d'entre-deux-guerres où les grandes figures intellectuelles naviguaient à l'intérieur et à l'extérieur du monde académique. Donc c'est une habitude qu'on a perdue, mais qu'on est en train de reprendre un petit peu tous, hein, collectivement, ces temps-ci.
De manière intéressante, les scientifiques.
Les scientifiques aussi. Donc on le fait en enseignant, on le fait en venant à la radio, on le fait de différentes manières.
Vous avez co-créé, co-fondé un collectif Construire l'écologie.
L'année dernière, avec quelques camarades, quelques amis, collègues, on a créé ce collectif qui servait, entre autres choses, à dire, nous avons du mal à entrer dans les politiques climatiques, l'essentiel, c'est l'extrait qu'on entendait de Bruno tout à l'heure, Bruno Latour, c'est essentiellement des affects négatifs. La voiture électrique, ça coûte cher, faut la recharger, la pompe à chaleur, ça fait du bruit, les éoliennes, c'est moche, j'en passe, le solaire, ça vient de Chine, enfin bon, c'est catastrophique. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, mais c'est en fait très étroitement lié à mon travail de chercheur aussi. Hein.
Mais c'est ce lien qui nous intéresse, oui.
Voilà. Ça consiste à dire, arrêtons de présenter l'écologie comme un impératif absolu, quasiment humanitaire. Les scientifiques nous disent ce qu'il faut faire, appliquons-le même si les gens ne veulent pas. Passons par une autre voie, qui consiste à dire, regardons qui sont, où sont les avant-gardes de la transition. Vous avez des ingénieurs, des ouvriers et des ouvrières, des intellectuels parfois, des gens qui font des politiques publiques, etc., etc. Toute une partie de la société pour qui la transition n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est leur métier en fait, c'est leur pratique tous les jours. On pose de la pompe à chaleur, on fait de l'innovation dans le solaire, on fait du recyclage, etc., etc. Regardons qui ils sont, comment ils travaillent, quels sont les apports qu'ils peuvent fournir à la société. Dressons la liste des bénéfices de ces choses-là et faisons en sorte que ces bénéfices, qui sont d'ordre industriel, au niveau de la santé, de l'alimentation...
Comment est-ce que vous intervenez là-dedans en tant que philosophe?
C'est une affaire très compliquée parce que entre l'employeur, la vie civile, etc., ça peut parfois être un petit peu... on n'est pas incité à le faire. Hein. On est même plutôt incité à ne pas le faire. Mais c'est pas grave. C'est important. Et puis, en réalité, c'était la norme de l'intellectuel avant les décennies récentes. Donc, moi, j'essaye de cartographier un peu, de suivre les travaux, de suivre les politiques publiques, de suivre les bons acteurs, de les faire se rencontrer, d'insuffler en quelque sorte des cadres d'analyse un petit peu plus théoriques, qui viennent pas seulement de Latour, mais en partie, et d'essayer de montrer en fait que la transition est un changement systémique de la société qui apporte énormément de bénéfices. Il y a des dividendes géopolitiques, des dividendes économiques, des dividendes sanitaires, que quasiment personne n'en parle. Les écolos, les premiers, n'en parlent quasiment jamais. Et que nous donnons comme cheval de bataille de le faire.
Fabrice Flippot, on vient de parler du collectif de Pierre Charbonnier, de la revue de Patrice Manillier. Vous coordonnez la revue Bifurcation. Est-ce que c'est par là, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre, c'est par les collectifs, les revues, que les sciences humaines, la philosophie, peut être du côté de l'émancipation et de l'écologie politique? C'est comme ça que vous pouvez descendre dans l'arène de l'écopolitique?
Oui, en partie. Il y a un premier travail, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est de conceptualiser les choses adéquatement, de telle manière à rendre les choses compréhensibles. Donc ça, c'est
un travail de traduction, en fait, auprès du public, de rendre la science populaire, d'une certaine manière.
Ah non, c'est de l'élaboration conceptuelle, c'est pas de la vulgarisation. Sinon, ça serait trop simple, ça voudrait dire que les choses sont déjà pensées. Non, il s'agit de les penser, parce qu'elles ne sont pas suffisamment pensées. Et une des raisons qui fait que c'est pas suffisamment pensé, c'est qu'il y a beaucoup de, disons, la réflexion est très compartimentée. C'est-à-dire qu'il y a les spécialistes du social, les spécialistes des classes sociales, les spécialistes de l'écologie, je parle des sociologues, des philosophes, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans Bifurcation, c'est de les mettre autour de la table, y compris des acteurs sociaux, tels que des syndicalistes ou des membres d'ONG, qui, de telle manière, en fait, à les faire se parler et de telle manière à sortir des caricatures que les uns ont parfois tendance à entretenir vis-à-vis des autres, qui fait que chacun reste relativement à distance.
Ça fonctionne ?
Et en faisant ce... Oui, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va sur des sujets que les gens abordent relativement peu. Je donne un exemple hein, sur le prochain numéro, ça sera sur l'industrie. Le premier, c'était sur écologisme et socialisme, avec notamment Serge Audier, comme j'ai dit, un auteur très important sur la question. Le deuxième, c'est écologie et conservatisme. Donc, vous voyez, il y a l'idée de délimiter, en fait, de quoi parle-t-on. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a... Quand on voit l'abus dans l'espace public du mot fasciste, par exemple, comment voulez-vous que les gens se retrouvent ? Donc, il faut des définitions précises qui permettent de donner des orientations précises. Et on s'aperçoit que toutes ces définitions, en fait, elles émergent à l'issue de conflits, c'est-à-dire de rencontres divergentes. Et à partir de ces divergences, on extrait une intelligibilité de la situation. Donc, sur le numéro industrie, par exemple, on a des visions, on va dire, plutôt syndicales, ou d'autres qui sont plutôt écolos et qui vont mettre en avant tous les bénéfices pour la société qui aurait à suivre une transition écologique. Du côté social, on va plutôt poser des questions d'emploi ou des choses comme ça, et essayer de voir assez concrètement dans des expériences ou chez des gens qui ont profondément travaillé la question, que ce soit des sociologues ou des politistes, qu'est-ce qui nous montre et qu'est-ce que le fait que chacun nous montre un petit bout de la réalité, ça nous permet d'élaborer une vision plus large en fait. Et c'est ça l'idée, c'est plutôt d'avoir une plateforme sur laquelle on va traiter des sujets de manière controversée pour avoir un point de vue qui soit entendable par les uns comme par les autres, parce que chacun va retrouver ce qui est important pour lui, parce que les syndicalistes ou les gens qui sont dans le social, si ça parle pas de social, ils vont pas lire, ça les intéresse pas. Et du côté écolo, si ça parle de social mais pas d'écologie, certains vont avoir tendance à pas lire. Donc l'idée, c'est vraiment de croiser les deux et de confronter. Et quand on confronte, on trouve des choses tout à fait nouvelles. Donc c'est pas de la vulgarisation.
C'est ça le chemin pour mettre fin à la dichotomie fin du monde. Patrice Manelier, vous êtes peut-être d'accord là-dessus avec Fabrice Flippot.
Bon, là où j'ai peut-être une différence de tempérament, de style, c'est que moi je pense pas que notre rôle soit de faire la leçon aux gens pour leur dire comment il faut bien utiliser les notions. L'idée c'est plutôt d'enrichir. C'est d'enrichir. D'ajouter des dimensions plutôt que de normer en fait la discussion, de montrer justement que c'est intéressant, de stimuler l'intelligence. Je pense aussi qu'il ne faut pas surestimer la capacité du débat intellectuel à transformer le débat public. Si on veut en fait agir politiquement, il y a des verrous qui sont au niveau étatique. Vous pouvez voter pour la France insoumise très nommément, et ça vous arrangera, vous réglerez vos problèmes. Pour le reste, il faut travailler pour rendre les choses intellectuellement intéressantes dans le critère qui est celui de l'intellectualité.
Merci beaucoup à vous trois pour cette émission passionnante. Patrice Manelier, philosophe, maître de conférences à l'université de Paris-Nanterre. Pierre Charbonnier, chargé de recherche au CNRS, philosophe également enseignant à Sciences Po, et philosophe également Fabrice Flippot, professeur de philosophie à l'Institut Mines-Télécom Business School, également chercheur au laboratoire de changement social et politique de l'Université Paris-Cité. Je recite votre livre « Apparaître, les écologistes sans la nature, en finir avec le faux ami Bruno Latour » en septembre aux éditions Textuelles. Merci beaucoup à Théa Corlaire qui s'est démenée pour préparer cette émission, à Loïse Guérin qui s'est démenée pour la programmer, à toute l'équipe, à Vivian Lecuivre à la réalisation, à la technique ce soir, Élise Le. Nous, on se retrouve demain, même heure, même studio, pour une émission consacrée au budget 2026 et à la part des entreprises dans cette affaire. Bonne soirée sur France Culture.